Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bonjour et bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de Métropolez-vous pour le cinquième et dernier numéro de notre série consacrée à l'histoire de Toulouse, un cycle d'émissions durant lequel nous aurons parcouru quelques dizaines, pour ne pas dire quelques centaines de siècles, de la préhistoire à l'époque actuelle, vu naître et se développer une ville, un territoire, une population, une culture et même une identité dans la longue durée. Après Toulouse au 19e siècle la semaine passée, nous allons aujourd'hui aborder le 20e lors de ce numéro qui va lui être entièrement dédié, le siècle le plus proche de nous bien sûr, mais plus encore, le siècle des grandes transformations et des grandes aventures, celui des pionniers de l'aéronautique et de l'aéropostale dans sa première moitié, celui du Concorde, d'Airbus et du spatial dans sa seconde. Toulouse change de visage et de dimension tout au long du XXe siècle, qui se terminera par les débuts de ce que l'on n'appelle pas encore la métropolisation, une période de changement, de bouleversement dans des domaines nombreux que nous allons donc vous raconter lors de ce numéro vintage consacré à l'histoire de Toulouse au XXe siècle. Et l'invité de ce numéro, celui avec qui nous allons nous plonger dans l'histoire de Toulouse au XXe siècle, c'est l'historien Rémi Pech, que je salue et que je remercie d'être présent aujourd'hui dans ce studio. Alors la semaine dernière, notre invité était votre collègue Jean-Marc Olivier, avec qui vous avez coordonné le livre collectif « Histoire de Toulouse et de la métropole » paru aux éditions Priva. Comment avez-vous été amené à co-diriger avec lui la conception de cet ouvrage et en quoi a consisté votre participation dans sa rédaction? Parce que je suppose que comme tout historien qui se respecte, vous avez vos périodes de prédilection.
Bien sûr. Bonjour Éric Dupri. Jean-Marc Olivier est un ami depuis son arrivée à Toulouse puisqu'il vient de la région lyonnaise et même du Jura.
Du Jura, oui.
Et je crois que c'est bien d'avoir le regard de quelqu'un qui s'est implanté à Toulouse et qui est devenu vraiment un Toulousain. Et au niveau universitaire, il a vraiment dirigé le laboratoire Framespa pendant des années et il en a fait un des meilleurs laboratoires historiques de France et d'Europe, peut-être. Donc Jean-Marc est quelqu'un qui a beaucoup de ressources et parmi ces ressources, celui de pouvoir mettre au travail des gens très différents sur un projet commun. Et je crois que je ne pouvais pas refuser de travailler avec lui, d'autant que j'avais participé à l'édition précédente sous la direction de mon vieil ami Michel Taillefer, hélas décédé, en 2002. Et donc, pour moi, c'était un plaisir de remanier tout ça. Alors, ma période de prédilection, ce serait plutôt l'immédiat avant-guerre de 14, puisque j'ai beaucoup étudié le mouvement des vignerons de 1907, qui a eu des répercussions importantes à Toulouse. Mais j'ai été toujours passionné également par la période entre deux guerres, la période de l'occupation et ensuite de la 4ème République. Ce sont des sujets sur lesquels j'ai beaucoup travailler soit moi-même, soit avec des étudiants. Je crois que pour moi, c'était un plaisir de participer à cette jeune équipe qui, je crois, a fabriqué un objet intéressant qui durera quelques années et qui ravira tous ceux qui se passionnent pour Toulouse.
Eh bien, merci pour toutes ces précisions sur vos travaux d'historien, vos travaux personnels et puis sur la conception du livre Histoire de Toulouse et de la métropole, un ouvrage sur lequel nous allons encore beaucoup nous appuyer tout à l'heure lorsque nous allons nous plonger avec vous dans l'histoire de la ville rose au XXe siècle. Il va falloir attendre quelques minutes pour cela puisque c'est dans l'actualité métropolitaine que nous allons nous plonger maintenant. C'est l'heure du rendez-vous avec Corinne Saint-Félix et son flash d'information hebdomadaire. Métropolez-vous, l'actu. Et l'actualité, c'est d'abord Toulouse Métropole qui s'engage auprès des acteurs culturels.
Oui, en concertation avec l'ensemble de la filière et en coordination avec les collectivités partenaires, des actions de soutien vont être mises en œuvre en faveur des acteurs culturels, que ce soit les associations, sociétés coopératives et entreprises privées ne recevant pas de subventions. Un fonds d'urgence pour accompagner les acteurs culturels qui doivent faire face à des pertes dues, bien sûr, aux annulations de spectacles et événements. confinement, aux fermetures des établissements, des commerces culturels, tout ceci va être débloqué. Une aide financière qui vise également à faciliter la mutualisation des moyens pour les employeurs afin de réduire leurs coûts fixes. Les conditions d'occupation de l'espace public seront aussi élargies pour faciliter par exemple la mise en place de cinéma de plein air et la création d'un événement culturel majeur. Biennale est aussi envisagée, à l'image de l'opéra de rue Le Gardien du Temple qui avait rassemblé pas moins de 900 000 spectateurs dans les rues de Toulouse, c'était en 2018. Au total, Toulouse Métropole consacre près de 3 millions d'euros aux volets culturels de son plan de relance qui viennent s'ajouter aux 9 millions d'euros de subventions allouées en 2020.
À noter également une autre action qui vient d'être annoncée, Toulouse Métropole et la mairie de Toulouse ont décidé d'attribuer des clés 4G aux étudiants en difficulté.
Oui, les établissements de l'enseignement supérieur via l'université fédérale ont demandé un accompagnement à Toulouse Métropole pour des étudiants qui, à cause de la crise sanitaire, connaissent des difficultés d'accès à Internet. Toulouse Métropole a donc décidé d'acheter des clés 4G qui, branchées sur un ordinateur, permettent une connexion Internet dont le débit peut aller jusqu'à 3 gigabits par seconde pour les 900 étudiants concernés recensés par ces établissements. De son côté, la mairie de Toulouse, ayant un marché avec SFR, a contacté l'opérateur afin de bénéficier d'une tarification préférentielle pour ses clés ainsi que 2 mois d'abonnement à 20 gigas sans engagement. Cette opération permettra aux étudiants de suivre leurs cours à distance et surtout de passer leur examen en ligne.
Et enfin, il faut signaler une mesure pour aider la recherche d'emploi avec la mise en place d'une nouvelle plateforme web.
Oui, une nouvelle plateforme numérique de formation et de recherche d'emploi, Hub Emploi Toulouse Métropole, a été créée. Alors si la métropole toulousaine connaissait jusqu'alors une forte croissance démographique et économique, son taux de chômage était déjà structurellement supérieur à la moyenne nationale. Avec la crise provoquée par le Covid, ce taux risque d'augmenter. Hub Emploi Toulouse Métropole doit venir en complément des dispositifs existants et doit offrir des services efficaces, notamment aux habitants de la métropole qui aujourd'hui ne sont pas accompagnés. L'objectif est de donner davantage de lisibilité en offrant des services correspondant précisément aux attentes pour répondre aux situations émergentes dans ce contexte de crise, en particulier pour les profils de citoyens ou d'entreprises qui aujourd'hui n'ont pas de dispositif ou de structure compétente pour répondre à leurs besoins.
Voilà, c'était donc le flash d'information hebdomadaire de Corinne Saint-Félix. Et Rémi Pêche, vous voudrez peut-être réagir à une des informations de ce flash.
Oui, c'est intéressant parce qu'on peut percevoir des continuités. Le secteur culturel à Toulouse est important depuis très longtemps. C'est pas toutes les villes qui ont le théâtre et l'opéra inclus dans le palais municipal.
Oui.
À part Nancy, je n'en connais pas autre. Et donc, ça, c'est 1750, c'est loin. Et puis, il faut quand même reconnaître que Dominique Baudis a été un grand maire pour le culturel, puisqu'il a porté les budgets de la ville centrale à 10%, budget culturel, c'était très important. Et il faut souligner que cet élan culturel a été suivi, je dirais, par Colomiers, par Tournefeuille, qui ont toujours eu des initiatives importantes en matière d'animation culturelle, en matière de colloques, en matière de festivals, etc.
Et d'équipements aussi, d'équipements culturels.
De médiathèques, donc tout ça, je crois que c'est très important de voir que même au moment du péril, on va renforcer.
Eh bien, merci d'avoir partagé avec nos auditeurs ces réflexions très complètes sur l'actualité métropolitaine récente. Nous allons maintenant nous projeter un siècle en arrière pour parcourir avec vous l'histoire de Toulouse au XXe siècle.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
La suite de Métropole et vous avec notre invité, l'historien Rémi Pêche, co-directeur de l'ouvrage collectif « Histoire de Toulouse et de la métropole » paru aux éditions Priva. À la fin de l'émission précédente avec Jean-Marc Olivier, votre collègue, celui avec qui donc vous avez coordonné cet ouvrage, nous étions à l'orée du XXe siècle et nous avions un peu évoqué les débuts de l'aéronautique qui sont liés au premier grand événement de ce siècle, la Première Guerre mondiale bien sûr. On peut se poser la question, quelles ont été les conséquences de ce conflit pour Toulouse? Alors évidemment on était loin du front, mais on peut imaginer que la plupart plupart des hommes aptes à combattre sont allés au front et que malheureusement, sans doute, beaucoup d'entre eux, parmi les très jeunes, ne sont pas revenus.
Il y a eu beaucoup de dégâts, effectivement, puisque Toulouse a connu 5200 morts, en gros, c'est-à-dire un petit peu plus, je crois, que la moyenne des morts pour la France sur les classes mobilisées, qui est de l'ordre de 20%, et pour Toulouse, c'est 22%, je crois. Enfin, bref, c'est inscrit dans la topographie toulousaine, non seulement par le fait qu'il y a deux monuments aux morts, le monument aux morts de Toulouse que peu de gens connaissent parce qu'il est inclus dans le cimetière de Salonique, et puis le monument qu'on appelle le monument aux morts, ben, si vous regardez l'inscription, c'est monument aux combattants, c'est-à-dire aux morts et aux vivants, aux rescapés, qui figurent d'ailleurs sur un bas-relief. On les voit qui arrivent à la gare, qui sont accueillis par les femmes, par les vieux, qui les embrassent. Et donc, ce traumatisme de la guerre de 14 a été puissamment vécu, et on le voit aussi avec tous les petits monuments de quartier qui sont implantés auprès des écoles, avec souvent des devises déploratoires et incitant au pacifisme. Et on comprend cet enracinement à Toulouse du pacifisme, qui a été fortement flatté, bien sûr, par la gauche toulousaine, qui a toujours monté en épingle la défense de la paix, dans la tradition jaurésienne.
Alors, parallèlement donc, à cette saignée, malheureusement, liée aux morts de la Première Guerre mondiale, il y a eu l'arrivée d'immigrants espagnols, italiens.
Bien sûr.
Polonais, comme un peu partout en France, mais notamment à Toulouse.
Oui, et à Toulouse, je crois qu'il y avait des structures d'accueil pour les Espagnols, puisque Toulouse a eu toujours une propension, certainement, bon, au point de vue culturel, l'occitan est proche du castillan, au point de vue linguistique. Il sert de sas entre le castillan et le français. Ça, je l'ai vécu dans mon village natal, mais ça, c'est valable aussi pour les villes. Et aussi, à Toulouse, il y a eu des immigrations politiques, très diverses d'ailleurs. Hein. Il y a eu des révolutionnaires à tout craint, chassés par les gouvernements royalistes espagnols lors des prononciamientos ou des révolutions nombreuses qui ont eu lieu au 19e siècle. Des carlistes, au contraire,
carlistes,
qui étaient un peu des ultra-royalistes.
Ouais.
Et bon, ils étaient un peu assimilés à la population toulousaine et en même temps cultivant toujours la racine de référence à l'Espagne. Je crois que ça a été important pour l'accueil et il y a eu toujours une propension à accueillir que l'on retrouve au moment de la guerre de 14 et ensuite au moment de la guerre d'Espagne.
Alors, c'est aussi à cette période, ce sont les débuts de l'ère industrielle. Alors, on parle de l'aéronautique, mais il y a aussi la poudrerie et l'arsenal
qui
fonctionnent à plein régime et qui emploient un nombre, mais vraiment très impressionnant, de personnes.
On est arrivé
des
à
femmes, notamment.
30 000 ouvriers, qui étaient majoritairement d'ailleurs des ouvrières. Alors là aussi, il y a des traces, je dirais, physiques. Puisque la fameuse passerelle dans Palau, c'est ça. Ça permettait aux ouvrières de traverser la Garonne sans avoir à faire le tour par le pont Saint-Michel. Ils pouvaient directement des quartiers populaires qui n'étaient pas encore des grands bâtiments, mais enfin, il y avait beaucoup de petites Toulousaines et des petits immeubles vers la rue Saint-Roch, tout ça. Et ils pouvaient traverser et travailler tous les jours à pied. Ils pouvaient aller travailler dans les ateliers nombreux. Il y a eu jusqu'à 800 bâtiments différents qui occupaient l'île du Ramier et puis aussi sa prolongation vers Portée qui ensuite a été occupée par l'ONIA et la ZDF.
Alors bon, on va parler de l'aéronautique évidemment parce que c'est là qu'un peu tout commence, donc pendant la Première Guerre mondiale. Avant, il y a quand même eu Clément Ader, au problème qu'on le cite, alors c'est pas Toulouse même.
Il faut pas oublier, Clément Ader, j'ai été surpris en travaillant sur la commune de Toulouse en 1871, j'ai trouvé une lettre de Clément Ader au préfet de l'époque, Armand du Portal, le gambettiste, qui lui demandait audience pour l'aider à mettre au point un engin volant, donc déjà en 1871. C'est assez incroyable et prémonitoire. Mais enfin, je pense, et ça Jean-Marc Olivier l'a très bien étudié, que ce qui était important, c'est la présence à Toulouse de corps de métier extrêmement variés, mais qui tous étaient susceptibles d'être mobilisés pour la construction des premiers avions, qui étaient des instruments associant la menuiserie, la forge et
la couture, le textile.
Et la toile d'avion.
Ouais. Hein.
Et donc, je crois que cette ville industrieuse préexistante en 1914 a été aussi un terreau qui a germé ensuite facilement, avec évidemment l'aide des commandes d'État et les initiatives individuelles qui ont consisté autour de Pierre-Georges Latécoère, mais ça n'a pas été le seul, puisqu'il y avait également Émile de Voitine et Marcel Moine, qui était un grand ingénieur, qui était déjà à la fois techniquement au point, scientifiquement au point, parfois brillant au point de vue culturel. C'était le cas de Latécoère lui-même, qui était très cultivé, qui parlait couramment l'allemand, il avait pas mal travaillé avec l'Allemagne d'ailleurs avant la guerre de 14, et qui était déjà d'initiative, c'est-à-dire qu'il ne se laissait pas enfermer dans une spécialité. Latécoère a fabriqué d'abord des rails et des traverse le chemin de fer, puis des wagons, et puis finalement des avions.
Alors donc, il installe ses ateliers à Montaudran, bon, et la piste
où
on décollait les avions.
Les pionniers.
C'est pour ça qu'on a installé, cette histoire est retracée à l'envol des pionniers, là, depuis un an, depuis que c'est ouvert. Il crée les lignes aériennes, Toulouse-Barcelone, Toulouse-Casablanca, Toulouse-Dakar, vers les colonies, quoi, en fait.
Voilà, vers les colonies, et ce qui permet, évidemment, d'effectuer la reconversion de l'économie de guerre à l'économie de paix. L'aéronautique a été sauvée par cet investissement qui n'a pas été brutal, puisqu'on trouve des initiatives de Latécoère dès les années 1920-1923. Le premier hydravion fabriqué par Latécoère, c'est 1923. Et le gros développement des hydravions, c'est 1935, 38, 40. Donc, il a su avoir les intuitions et prendre les chevaux qui se présentaient. C'est-à-dire que, par exemple, la liaison avec le Maroc, c'est le maréchal Lyoté qui avait compris l'intérêt qu'on pouvait en tirer d'une liaison hebdomadaire Toulouse-Rabat, et il a financé en partie cette liaison. Également, il y a eu la possibilité d'avoir des hommes aventureux et des petites équipes qui se sont constituées autour de Dora, de Saint-Exupéry, de Mermoz, et qui ont été des pionniers réellement, et puis des vedettes, on peut dire, qui ont eu à la fois l'aspect finalement légendaire,
littéraire.
Et donc tout ça, ça fait une espèce de saga toulousaine qui a implanté vraiment dans l'opinion toulousaine un sentiment d'orgueil finalement, ou de fierté plutôt, et qui l'a arraché un petit peu à l'étiquette un peu rurale, un peu passéiste, qui était celle de Toulouse. Et donc il y avait un décalage, cet enracinement rural qui a continué, mais qui a été complété par l'épopée industrielle.
Et l'épopée de l'aéropostale, donc ça c'est à partir de 1927, les lignes vers l'Amérique du Sud, avec bon, ces grandes figures que sont Mermoz, Saint-Exupéry et Didier Dora, que nous venons de citer. Alors, on va parler un peu de la politique à Toulouse dans l'entre-deux-guerres, donc les années 20, 30,
ça vaut la peine,
40. Qui va administrer la ville? On en était resté un peu plutôt aux radicaux. Là, ce sont les socialistes.
Oui, les socialistes ont mis longtemps à déboulonner les radicaux. Alors là aussi, il y a des images qui frappent. Bon, Bedouce, c'est vrai, ça a été le premier maire socialiste de Toulouse en 1906. Mais les radicaux sont revenus en 1908. Et puis, ils sont revenus encore en 1920 avec Feugat. Donc, il y avait cette petite bourgeoisie toulousaine qui hésitait à basculer vers le socialisme ardent, tout au moins en parole. Ce n'est vraiment qu'en 1925 que, avec Étienne Billière, enfant de Toulouse, à la grande popularité, sa mère était à la manufacture de tabac, son père était menuisier populaire à Toulouse, et lui-même était autodidacte, un typographe autodidacte, mais qui est devenu en même temps un penseur de l'expansion de Toulouse, et qui a voulu tout de suite marquer l'urbanisme toulousain en s'entourant de compétences. Et Josselit, qui avait été quand même un des collaborateurs de Le Corbusier à Barcelone, Montariol, tout jeune à ce moment-là, mais qui a lié la vision des arts décoratifs avec la réalisation de grands bâtiments, comme la bibliothèque municipale,
Rue de Périgord,
comme,
oui.
La piscine, les sports.
Des écoles aussi, quelques écoles, plusieurs écoles.
Il y a eu, dans une période quand même qui n'était pas très propice au point de vue financier, mais ça a été financé. Et sans trop de déficit d'ailleurs, il y a eu un aspect de modernisation très important, et également Billière a su accompagner l'implantation de l'industrie chimique, donc je crois que ça a été une période fertile, et évidemment avec un souci social qui se traduit par le bureau de bienfaisance, par une attention particulière au peuple toulousain et au sport également, Billière était très attentif à construire des petits stades à côté du stadium qui lui était le fleuron, un socialisme municipal authentique et fertile.
Voilà, et la population qui continue d'augmenter évidemment pendant cette période, d'une part parce qu'il y a de l'exode rural, Toulouse attire.
Parce que les campagnes souffrent.
L'immigration étrangère, donc
les campagnes souffrent, et Toulouse permettait aux paysans de s'acculturer à la ville sans rompre complètement les liens avec la campagne.
Voilà, alors on arrive à la fin des années 30, bon, c'est à l'époque où l'aéroport va être créé, il sera à Blagnac, il ne sera pas à Toulouse, mais ça c'est décision de l'État. Et donc la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qui se passe à Toulouse sous l'occupation? Est-ce qu'il y a des réseaux, des faits de résistance, des personnalités qui se distinguent? Oui, il y en a plusieurs, on pense au cardinal Saliège, mais il y en a d'autres.
Oui. Alors, ce qui caractérise d'abord la période qu'on dit souvent période noire, ce qui ne veut pas dire grand-chose, il y a d'abord eu un exode extrêmement fort, puisque en quelques semaines, la population de Toulouse est passée de 200 000 à 500 000 habitants qu'il a fallu accueillir et tout. Il faut dire que c'est un prodige. Hein. Et ils ont été logés provisoirement, puis ils sont repartis. Le consul de Belgique, par exemple, a accueilli énormément de compatriotes. Ensuite, on peut dire que Toulouse, évidemment, a subi le soulagement dans l'armistice signé par Pétain. Et Pétain a eu un bon accueil à l'automne 40, même s'il y a eu une manifestation de trac envoyée par de jeunes communistes depuis les toits de Toulouse, que l'on souligne toujours comme un acte de résistance ponctuel. Mais surtout, ce qui est important, c'est que les élites toulousaines, les élites intellectuelles toulousaines, ont rejeté le régime pétainiste par attachement à la gauche, par attachement aux valeurs de la Révolution et la méfiance à l'égard de l'autoritarisme et du passéisme de Vichy. Évidemment, avec des personnalités comme Silvio Trentin, comme Verdier, qui était d'ailleurs l'un et l'autre des francs-maçons, un milieu qui a tout de suite créé des réseaux d'opposition politique. On peut dire donc que la résistance a eu un aspect politique intérieur qui était différent et qui s'est nourri ensuite du patriotisme, évidemment, chasser l'occupant, chasser l'ennemi. Il y a eu un amalgame qui a été réussi. Et là-dessus, bien sûr, il y a l'acte extraordinaire du cardinal Saliège qui a réussi en pleine occupation en 1942 à imprimer et à diffuser une lettre pastorale condamnant la persécution antisémite. Ce qui était doublement extraordinaire, puisque lui-même était plutôt imbu des valeurs de la révolution nationale pétainiste, mais il avait réalisé que l'évangile était contraire à la politique antisémite. Et donc là, il a choisi une rupture, et comme il était intouchable, de par sa popularité, de par aussi le fait qu'il était fortement handicapé, et que c'était gênant de réprimer un homme aussi faible au point de vue physique, avec toute la force intellectuelle et morale et religieuse spirituel qu'il pouvait avoir, il a fait basculer un grand nombre de chrétiens dans la résistance, ou dans l'accompagnement en tout cas de la résistance.
On arrive dans l'après-guerre, les années 50-60, Toulouse est choisie pour être une des, ce qu'on appelait les métropoles d'équilibre du pays. C'est là d'ailleurs qu'on accueille vraiment à grande échelle les activités aéronautiques et spatiales, dans ce qu'on appelle la décentralisation, et c'est là que Toulouse devient préfecture de Midi-Pyrénées.
Absolument, c'est les préfectures régionales qui ont été au départ créées là aussi, il ne faut pas l'occulter, par le régime de Vichy, mais qui ont été suivies ensuite par la 4e République avec les inspecteurs généraux en mission extraordinaire, les IGAM, qui ont été à Toulouse particulièrement brillants et qui ont vraiment accompagné cet aspect de déconcentration, qui n'est pas véritablement la décentralisation, mais en fait, qui a joué pour beaucoup de services. La cité administrative de Toulouse est un exemple. Également, tous les investissements dans le secteur santé. On l'a aussi, évidemment, et c'est un amalgame entre la vitalité de la recherche toulousaine, où nous avons des pionniers dans le domaine de la cardiologie, dans le domaine du cancer, avec des gens comme Duquin, comme
Claudius Camille
Soula, comme le professeur Puel qui a inventé les stents. C'est ici, à Toulouse, que ça s'est fait. Et le doyen Lazorte, qui a réussi le prodige de rester actif jusqu'à ses 103 ans. Il a donné encore des cours en amphi à 102 ou 103 ans. C'est extraordinaire. Et donc, ce terreau de valeurs intellectuelles qu'on retrouve aussi dans le secteur chimique avec Paul Sabatier. Et chaque fois, on voit l'appui du politique avec le technique, avec la profession, puisque la municipalité et les pouvoirs publics nationaux aussi ont encouragé cette polarisation, cette implantation, ce rayonnement de Toulouse, dont nous pouvons bénéficier aujourd'hui dans la circonstance difficile que nous vivons.
Alors c'est aussi l'époque avec de nouvelles vagues d'immigration, les immigrés espagnols, les républicains, oui, qui fuient le régime franquiste, et puis les rapatriés d'Algérie.
Beaucoup sont restés.
Ça s'est bien passé tout ça, ce nouvel apport, ils se sont bien intégrés.
Oui, c'était pas non plus évident, parce que ces immigrés avaient des qualifications souvent style tertiaire, classe moyenne, commerçant, artisan, qui étaient déjà bien implantés à Toulouse, mais ils ont été volontaires. Ils ont également joué des coudes et été solidaires entre eux. Donc Toulouse est devenue là aussi une terre d'accueil, une terre de rayonnement et aussi d'amalgame de populations diverses, de populations disparates, mais qui, dans le creuset toulousain, faisaient tout pour le renom et pour l'activité de Toulouse.
Alors, bon, dans cette période, le développement de l'aéronautique va se poursuivre à Toulouse. Il y aura une aventure extraordinaire, c'est celle de Concorde, formidable réussite technologique, gros flop commercial. Voilà. Il y a eu la Caravelle aussi, qui était un avion formidable
pour l'époque. Il y a eu plusieurs dizaines de Caravelles ont été vendues, c'était un bel avion. Et la suite de Caravelle, c'est plutôt Airbus, mais il y a un hiatus entre la Caravelle et Airbus. Hein, et puis il a fallu la mobilisation autour des autres puissances européennes, hein, l'association, alors là il y a eu un rôle de la finance, et de l'État pour réussir cet amalgame de l'Airbus qui s'est concrétisé assez récemment, hein, en 2016, par le siège d'Airbus qui s'est installé à Toulouse, ce qui est quand même une preuve de la possibilité d'avoir à Toulouse à la fois la fabrication, la conception, les bureaux d'études,
et la direction, et aussi le
fait d'avoir des grandes écoles d'ingénieurs, il y en a eu deux ou trois dans le secteur aéronautique.
L'ENAC, bien sûr, est super. Voilà. Alors pour terminer sur les années 60, mai 68 à Toulouse, est-ce qu'il y a quelque chose à signaler ou est-ce qu'il se passe à peu près la même chose que dans les autres villes ?
C'était une grosse concentration d'étudiants à Toulouse. Donc ces étudiants étaient à la fois séduits par les thèses révolutionnaires. Bon, il y avait des éléments aussi occitanistes. Hein, je pense à mon ami Alain Alcouf. Et le mouvement du 25 avril à Toulouse, la première occupation d'université s'est faite à Toulouse, équivalent de Nanterre. Et je crois qu'il y a eu deux éléments importants. C'est la conjonction du mouvement étudiant avec le mouvement ouvrier. Et puis la présence aussi à la tête de l'université toulousaine. Bon, il y avait le doyen Marty qui était un ancien résistant mais devenu un peu conservateur, mais surtout le doyen Godechaux en lettres, qui est un homme qui avait étudié des recherches mondialement respectées sur la Révolution française et qui était donc particulièrement adapté, je dirais, à amortir et à canaliser ce mouvement révolutionnaire. Et Godechaux a accepté que de nouveaux organismes tripartites associant les professeurs, les maîtres de conférences et les étudiants. Et puis même au début des personnels de l'université. Tout ça, c'était assez prémonitoire et ça a préparé les lois Savary, Edgar Faure et puis la loi Savary qui en sont sorties. Donc je pense que Toulouse a été un peu pionnier dans le changement de l'université. Il y a eu un peu de grabuge comme partout, hein, mais il n'y a pas eu de gros dégâts humains en tout cas. Quelques répressions un peu dures, mais enfin, je crois que mai 68 n'a pas été sanguinaire à Toulouse et a été surtout créatif.
Alors, on arrive aux 30 dernières années du XXe siècle, les années 70, 80, 90. L'aventure Airbus est devenue européenne. Hein. Il y a un essor continu de l'aéronautique et du spatial, il ne faut jamais l'oublier. Et je ne sais pas si les Toulousains le savent, mais il faut savoir que Airbus Toulouse, c'est le premier site industriel de France, de 13 000 salariés aujourd'hui.
Absolument. Et Toulouse est certainement la ville, la grande ville, qui a sur son territoire trois grandes usines aéronautiques. Hein. Saint-Éloi, Saint-Martin-du-Touche, et Périole, la Técoère. Donc, il y a une chaire ouvrière très importante qui est restée et qui caractérise Toulouse. Et ceci dit, il y a eu aussi d'autres secteurs, comme le secteur informatique, qui ont prospéré, avec beaucoup de start-up, avec beaucoup de systèmes embarqués qui ont été valorisés, avec Louis Pêche, qui a créé Valeo, hein, qui était une grande entreprise
équipementier automobile.
Aux automobiles, oui. Et donc, ça, c'est, je crois que c'est Toulouse. Et également, tout le soutien à la médecine et à la pharmacie qui a pu permettre la reconversion de la chimie. La reconversion presque totale. Il y a encore quelques éléments de la vieille chimie fabricant de poudre et de mais très peu. Et la plupart, et là, Douste Blasi a été important à mesure où il a pesé pour que le site de l'ONIA soit reconverti en oncopole qui permettait d'associer pharmacie et médecine.
Et après le drame d'AZF qui malheureusement a ouvert le 21e siècle à Toulouse, et bien on peut dire que le grand fait peut-être de la fin du 20e siècle, c'est la métropolisation justement.
Absolument.
D'abord communauté urbaine et puis... Grand Toulouse et Toulouse métropole.
Oui, métropole. Oui, alors ça n'a pas été tout seul parce que il y a eu longtemps une méfiance qui n'était pas seulement politique. Et ça, je crois que l'alternance récente qui a eu lieu d'abord en 2008 avec l'arrivée de Pierre Cohen et de la gauche, et puis le retour de la droite et du centre avec Jean-Luc Moudin, a fait que, en définitive, les passions se sont apaisées entre la commune-centre et les banlieues qui représentent à peu près le même poids aujourd'hui, puisque nous avons 400 000 d'un côté, 300 000 ou 350 000 de l'autre, et on arrive à avoir une métropole qui n'est pas complètement en restitué, puisqu'il y a le Sicoval quand même qui est resté à part, donc qui peut traiter des grands problèmes, on l'a vu avec tout à l'heure le spot que vous avez diffusé, d'une façon relativement harmonieuse. Je crois que c'est un des faits importants, puisque de grands équipements comme le métro et le tram ont pu être financés par cette entente, on peut dire.
Voilà, bah écoutez, fin de cette émission, la cinquième et dernière consacrée à l'histoire de Toulouse. Merci infiniment Rémi Pelch de nous avoir rappelé, nous fait découvrir tous les aspects du XXe siècle toulousain. Il se termine donc avec la métropolisation du territoire, tout d'abord avec la communauté urbaine, le Grand Toulouse, et enfin Toulouse Métropole, ses 37 communes et ses presque 800 000 habitants aujourd'hui. Je rappelle que Rémi Pelch a coordonné avec Jean-Marc Olivier l'ouvrage collectif Histoire de Toulouse et de la Métropole, paru aux éditions Privat. Ce numéro de Métropolez-vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, et d'ici là, n'oubliez pas, métropolez-vous bien.
Métropole et vous.
Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.